Il est 8h44 à Paris, tout de suite la presse africaine. Et c'est avec vous, Alban Le Prince. Bonjour.
Bonjour, Andréane. Bonjour à tous.
À la une des journaux africains ce mercredi, le dernier tabou, c'est un pape noir.
Une déclaration signée du photographe camerounais Samuel Fosso dans les colonnes du Point. Alors que 133 cardinaux venus de 70 pays vont s'enfermer aujourd'hui dans la chapelle Sixtine à Rome pour désigner un nouveau pape, il est plus facile d'imaginer un Africain dans l'espace ou pratiquant la téléportation qu'un pape noir, affirmaient certains en 2017 dans les rues de Bamako, rapporte le magazine. Pourtant, c'est possible. La preuve, l'Afrique est aujourd'hui le moteur le plus dynamique du catholicisme mondial avec 20% des catholiques de la planète. Et plusieurs cardinaux africains sont considérés comme des papabili. Parmi les noms qui circulent, selon Le Point, Dieudonné Nzapalenga, cardinal de Bangui, qui se définit comme un casque bleu du Christ. Il y a aussi Fridolin Ambongo Besungu, cardinal de Kinshasa, qui estime que la voix d'un pape noir porterait davantage que celle de la plupart des chefs d'État africains qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Enfin, il y a le cardinal Robert Sara, originaire de Guinée, figure respectée des milieux conservateur et fervent défenseur d'une église fidèle à sa tradition.
Et c'est ce dernier que le général Mamadi Doumbouya soutient.
Le Djeli relaie le message du président guinéen qui salue le parcours spirituel et l'humilité remarquable du cardinal Sara qui est aussi, selon le journal catholique français La Croix, le favori des conservateurs français qui s'est imposé comme l'une des critiques les plus virulentes du pape François, porte-voix de la composante la plus classique, voire traditionnelle des catholiques.
Dans la presse africaine aujourd'hui aussi, un appel.
Lancé dans le Mail and Guardian, l'hebdomadaire sud-africain appelle à mener le combat pour une cour internationale anticorruption qu'il considère comme une maladie pour la société et le corps politique. Cette idée, émise par la Cour internationale de justice, permettrait de traiter la corruption comme un crime international, au même titre que les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. Pour appuyer son propos, le Mail and Guardian nous dévoile des chiffres qui donnent le tournis. Ces 50 dernières années, l'Afrique a perdu 1000 milliards de dollars dans des transactions illicites. C'est presque autant que l'ensemble de l'aide étrangère perçue pendant la même période. Avant de conclure, l'Afrique peut soit rester les bras croisés sans se soucier des priorités africaines, soit saisir cette occasion pour exiger une cour qui serve véritablement ses intérêts.
On termine cette revue de presse, Alban, avec une belle histoire.
Et c'est TSA qui nous la raconte. C'est celle d'Aïssa Benaïdjer, originaire de Béjaïa en Algérie. Arrivé en France en 2010, il n'a jamais renoncé à son rêve, devenir chef cuisinier. Je suis venu en France pour la cuisine de Bernard Loiseau et Paul Bocuse, dit-il. Resté 3 mois sans travail, 9 ans sans papier, je traînais dans les brasseries parisiennes, raconte le cuisinier, avant d'intégrer le prestigieux Royal Monceau, un palace à 400 mètres de l'Arc de Triomphe. C'est là qu'il fait la rencontre de Bruno Guéret, de Pierre Gagnère, chef aux 2 étoiles Michelin, qui le prendront sous leur aile. Mais Aïssa Benaïdjer ne s'arrête pas là. En plus de côtoyer les plus grands cuisiniers français, il devient l'un des leurs. J'ai fait les Césars en 2023, où j'ai eu la chance de cuisiner pour Brad Pitt, mais aussi pour un ex-président de la République française en 2019 qui lui a dit « Bravo mon fils », raconte l'Algérien encore ému. Il y a 3 mois, Aïssa a ouvert son propre restaurant dans le 15e arrondissement de Paris dans lequel il propose des plats gastronomiques, mais une formule à moins de 25 euros. Les gens qui ne peuvent pas manger dans les palaces, ils peuvent manger chez nous avec amour.
Alban Le Prince pour la revue de presse africaine à retrouver comme chaque jour sur toutes les plateformes d'écoute, 8h48 à Paris.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et on en parlait dans la revue de presse à la une ce mercredi. Le conclave, ça commence aujourd'hui à Rome. Les 133 cardinaux électeurs originaires de 70 pays doivent se retrouver cet après-midi dans la chapelle Sixtine et n'en sortir qu'après seulement avoir élu un nouveau pape à la majorité des 2/3. On y revient dans le prochain journal avec Nicolas Roca, notre envoyé spécial sur place. Et sur RFI, vous avez notre éclairage. Comment le conclave va-t-il se dérouler? Rendez-vous sur le www.rfi.fr. On va revenir aussi dans le prochain journal sur cette forte montée de tensions ces dernières heures entre l'Inde et le Pakistan en réponse à l'attentat meurtrier survenu dans le Cachemire le 22 avril dernier, imputé au Pakistan. l'Inde a frappé plusieurs régions du Pakistan avec des missiles et Islamabad a répliqué avec des tirs d'artillerie. Au moins 34 morts des deux côtés. L'armée indienne affirme que les 9 camps terroristes visés ont été détruits. Des appels à la désescalade lancés à travers le monde, de la France, les États-Unis, la Chine également. Le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan, a déclaré l'ONU. Ils vont de plus en plus mal, ils meurent à petit feu. Les mots sur notre antenne ce matin de Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler, retenue avec Jacques Paris depuis 3 ans, jour pour jour, aujourd'hui en Iran, tous deux accusés d'espionnage par Téhéran. Ce matin sur le réseau X, Emmanuel Macron l'assure, la France agit sans relâche pour obtenir leur libération. Le président français qui aujourd'hui reçoit à Paris le président syrien par intérim, une première visite en Europe pour Ahmed Al-Sharaa, particulièrement critiqué par une partie de la classe politique française. Autre visite à Paris aujourd'hui, tradition oblige, le nouveau chancelier allemand réserve son premier déplacement à l'étranger aux voisins français. Friedrich Merz, le dirigeant à peine élu, déjà fragilisé après une élection très difficile hier. Le dirigeant a dû attendre 2 tours pour être élu après un rejet exprimé par les députés au premier tour, une première dans l'histoire allemande. En Ukraine, 2 personnes sont mortes et 8 ont été blessées dans des attaques de drones russes sur Kiev ce mercredi. Et puis, une nouvelle attaque de drones a visé la plus importante base navale du Soudan à Port-Soudan ce mercredi, 4e jour de frappe dans la ville abritant le siège provisoire du gouvernement. En Côte d'Ivoire, cela fait un peu plus de 2 semaines maintenant depuis la radiation de Tidjane Thiam des listes électorales décidées par un tribunal d'Abidjan. Depuis, le président du PDCI, le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, ne renonce pas. Il tente de mobiliser et veut croire en ses chances de pouvoir se présenter à la présidentielle d'octobre prochain. Pour mieux comprendre ce qui se joue ici en Côte d'Ivoire, écoutez l'analyse de notre invité ce matin, Ousmane Zina, professeur agrégé en sciences politiques à l'université de Boaké, en ligne de Côte d'Ivoire. Il répond à Christophe Babouvier.
Ousmane Zina, bonjour.
Bonjour.
Alors, la justice ivoirienne se fonde sur le code de nationalité qui indique qu'on perd sa nationalité ivoirienne quand on acquiert une autre nationalité. Mais Tidjane Thiam réplique que cet article du code n'a jamais été appliqué et qu'à ce compte-là, la plupart des joueurs de l'équipe de football de Côte d'Ivoire ne pourraient pas jouer pour les éléphants.
Bon, le fait qu'un texte existe ou alors qu'une loi existe ou une disposition existe et qu'elle n'ait jamais été appliquée, elle se trouve alors cette disposition dans une forme de silence. Est-ce que le silence de la disposition fait disparaître la disposition en soi? Ça reste un débat juridique assez ouvert. La décision de justice, elle est là et on est obligé de l'observer en tant que telle.
Depuis quelques jours, le PDCI parvient à mobiliser de plus en plus de partisans. Ils étaient plusieurs milliers samedi dernier dans les rues d'Abidjan. Une 20aine de partis d'opposition appellent à un rassemblement le 31 mai. Est-ce que l'exclusion électorale de Tidjane Thiam ne va pas électriser le débat politique?
Oui, on n'est pas à une première expérience d'un jeu politique assez électrique en Côte d'Ivoire. Et je pense que la mobilisation qui est en train de se faire progressivement par le PDCI met le PDCI effectivement dans une disposition de combat politique. Maintenant, la question est de savoir quelle tournure pourrait prendre ce genre de tension. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à basculer dans aucune forme de violence. L'appel à la violence ne serait pas la bienvenue dans ce contexte déjà fragile et ce contexte régional encore plus fragile.
Autre stratégie de Tidjane Thiam, qui est en Europe depuis quelques semaines, pousser la communauté internationale, notamment la CEDEAO et les pays européens, à prendre position en sa faveur. Qu'en pensez-vous?
Oui, je pense que c'est une stratégie diplomatique. Vous savez, on l'a vu dans le contexte ivoirien, comment est-ce que les accords politiques, les arrangements politiques forgés à partir de relations avec la diplomatie africaine et la diplomatie internationale ont pu changer de trajectoire. Et donc, cela fait partie de la démarche d'un homme politique qui a des ambitions présidentielles, de jouer sur ses réseaux à la fois internes et ses réseaux internationaux, d'espérer que la diplomatie, par ses actions, puisse faire bouger les lignes. Et l'idée ici, en passant par cette voie de la diplomatie africaine et internationale, l'idée ici, c'est de finalement trouver peut-être une solution politique à cette situation, à cette crise.
Le candidat du PDCI en octobre prochain, ce sera moi ou personne, dit Tidjane Thiam. Comment analysez-vous cette stratégie?
Je je pense que c'est la continuité de la démarche de Tidjane Thiam qui est arrivée, qui a pris la tête du PDCI, qui après est désigné candidat du PDCI et qui est dans cette démarche effectivement de conquête du pouvoir. Et donc je pense qu'il est dans cette démarche-là d'aller au bout. Et si éventuellement sa candidature n'est pas acceptée, la solution du seul plan qui existe va sûrement déboucher sur un boycott. Je pense que c'est cette impression que ça laisse présager.
Si Tidjane Thiam ne peut pas y aller, si Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro ne peuvent pas y aller non plus, est-ce que la présidentielle de dans 6 mois ne va pas perdre l'essentiel de sa légitimité?
On peut se poser effectivement cette question de la légitimité par rapport au poids des acteurs. Effectivement, la présence de ces types d'acteurs, notamment Laurent Gbagbo, Blé Goudé, donnerait en fait de la tonicité à ces élections présidentielles. Mais aller jusqu'à dire que leur absence délégitimerait ces présidentielles, je pense que le jeu démocratique compose avec ceux qui sont présents et ceux qui peuvent participer sur le plan juridique, effectivement, à des élections présidentielles.
Du côté du parti au pouvoir RHDP, le président Alassane Ouattara ne dit toujours pas s'il va briguer ou non un 4e mandat. Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis?
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le président Ouattara va faire. Ce que je sais, c'est qu'en fin juin, il aura un congrès et donc il garde le suspense. Il est dans cette approche de l'horloge, la maîtrise du temps et puis l'effet surprise, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a un dauphin? Pour l'heure, on ne peut pas penser à un dauphin qui émerge très clairement. On l'aurait su depuis plusieurs mois en arrière. On peut penser à quelques acteurs clés, des cadres qui ont des légitimités électorales par leur parcours. On peut imaginer effectivement ce scénario, mais désigner un dauphin à l'heure, je ne suis pas très sûr. Dans le contexte actuel, on ne voit pas poindre à l'horizon un acteur qui émerge. Voilà.
Professeur Ousmane Zina, je vous remercie.
Entretien avec Christophe Boisbouvier. Tout de suite, on vous retrouve, Maman, comme chaque jour. Aujourd'hui, vous nous parlez du Gondwana comme premier producteur mondial d'hommes forts.
Oui, non content d'avoir un sous-sol gorgé de tous les minerais existants, le Gondwana, notre beau pays, telle la table périodique des éléments qui nous a fatigués en cours de chimie, eh ben le Gondwana a une forêt foisonnante de toutes les essences connues et inconnues, sans oublier un sol fertile et des cours d'eau généreux. L'indice des matières premières lui-même sait que son espérance de vie ne sera que de quelques secondes sans toutes ces belles choses de notre beau pays. Pétrole, uranium, cobalt, coltan, or, diamant, café, cacao, bois, rose, vanille, coton, anaca, etc. Le Gondwana est le premier producteur de tellement de choses mais qu'on est incapable d'en établir la liste. Et c'est avec plaisir que je vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, que ce n'est pas fini. La liste s'allonge avec le joyau éternel Made in Gondwana, le leader, le chef, le boss. Et oui, au Gondwana, on produit des leaders à tire-larigot, des chefs, des patrons tout le temps. Chaque matin, quand tu te réveilles, dès que tu mets la radio, mais tu entends qu'il y a un nouveau patron au Gondwana. C'est une spécificité de la très très démocratique république. Dans les autres pays, ben, ils se demandent même comment on fait parce que chez eux, ben, c'est tous les 4 ou 5 ans que ça se passe. Et en plus, les leurs ne sont même pas des leaders, hein. Ils les appellent des locataires. Tu entends leurs médias parler du nouveau locataire du palais présidentiel qui va s'installer après avoir gagné les élections. Locataire. C'est-à-dire que ce n'est même pas chez lui, quoi. Il a un bail avec le propriétaire, c'est-à-dire le peuple qu'il a élu et surtout, à la fin de son bail, il prend ses clics et ses claques et il libère les lieux fissa. Mais au Gondwana, le nouveau leader, le nouveau patron, le nouveau boss, il n'a pas tous ses problèmes. Hein. C'est lui le chef, c'est lui le chef, le boss. Il loge où il veut et on ne sait pas quand il partira. Hein. Il peut rester là jusqu'à... ou alors être délogé du jour au lendemain. Les gens qui t'ont acclamé, mon ami, dans la rue, criaient à ton passage « Président !» en voyant aux gémonies le précédent leader que tu as délogé, ces mêmes gens, 6 mois plus tard, vont te crier « Dégage !» Bah oui, en servant du président au nouveau leader qui te fera ce que tu as fait à l'autre. Comme on dit au Gondwana, quand deux chefs de boss se suivent, le premier se met à l'infinitif et part en exil dans un pays voisin en attendant sa revanche qui, la plupart du temps, ne vient jamais. Les Gondwanais sont habitués à se réveiller avec un nouveau leader sans en avoir été prévenus la veille. Ils sont philosophes car ils savent que, quelque part, que tu es le leader, le boss, grâce à la force qu'il te donne en s'agglutinant et t'acclamant dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale. D'ailleurs, ils disent entre eux que si dans 6 mois, tu n'as rien fait, ils vont essayer un autre chef, un autre leader, jusqu'à trouver le bon. À demain.
À demain, Maman. Belle journée à vous.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Nous sommes tous de quelque part d'un imaginaire fait de paysages et de légendes. La France par ses contes est la nouvelle collection imaginée par Denis Gombert. Et tout commence avec la Loire, en compagnie d'Agnès Michaud, le long du fleuve pour croiser quelques fées, un ogre, il faut bien ça, et de joyeux villageois.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain avec le podcast La Relève du Rire, plongé au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent, du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.